Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des manières que j'adore.
Ça commence à se savoir. Commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, camarades de Radio Campus et auditeurs fidèles ou infidèles des points sur les i, point barre. Aujourd'hui, lundi 15 janvier, présent Christophe.
Bonjour.
Salut Christophe. Ah, j'avais mal repéré la couleur de son micro. Bonjour. Dominique.
Bonjour.
Et Cathy.
Bonjour.
Alors Dominique et Cathy, c'est des voix que vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans notre émission, c'est normal. C'est la première fois qu'ils sont invités dans les points sur les i, point barre. Et comme annoncé la semaine dernière, il me semble, ce sont donc des gens de l'association Podemos Lille. Alors je pense qu'on va commencer tout de suite de ce fait-là par vous, hein, honneur aux invités, sachant qu'il y a Simon et Justin qui vont nous rejoindre en cours d'émission. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre association, donc Podemos Lille, depuis combien de temps ça existe, combien de membres, je ne sais pas s'il y a des systèmes de cotisation ou tout ça, êtes-vous, et quel est votre objet, votre objectif et vos actions, les actions que vous déployez au sein de cette association?
Oui, alors bonjour. J'ai voulu créer Podemos l'année dernière, car j'étais vraiment sympathisée par rapport à l'Espagne. Alors l'année dernière, c'était le mois de mai, et on n'a pas fait d'assos tout de suite, parce que moi, on n'avait pas les papiers. Donc on s'est un petit peu débrouillé comme ça, la débrouille, Dominique, moi, on a commencé à vouloir essayer d'avoir des personnes, à parler de Podemos, Podemos Lille, quelles étaient les valeurs de Podemos par rapport à l'Espagne. Bon, au début, j'étais très, très sympathisée par rapport à ce que Pablo Iglesias a fait en Espagne, par rapport à cette démocratie horizontale. Nous avons fait la braderie de fin d'année dans le Vieux-Lille. Nous avons commencé à parler de Podemos. Ensuite, nous avons refait une braderie à nouveau en septembre. Nous avons encore parlé de Podemos. Nous avons même eu un stand de braderie Podemos, Podemos Lille. Voilà. Mmh. Nous sommes allés également à la fête de l'humanité. Nous avons rencontré Podemos Paris, puis bon, bien d'autres partis de gauche où nous n'avons pas vraiment... Enfin, c'est surtout pour avoir des conseils. Voilà.
Et en fait, avec ce début, avec ces contacts qu'on a eus, on est arrivé à la conclusion de se dire, eh ben, on va former une association. Pour justement pouvoir développer de façon légale nos idées. Et en fait, nous sommes créés légalement depuis le mois de novembre. Bon, nous étions deux au départ, et maintenant, nous avons quand même 150 contacts. Alors, bien sûr, ce sont des contacts, ce sont pas des adhésions, mais on commence à être 4 ou 5 véritablement impliqués dans les actions que nous menons. Alors, bien sûr, c'est pas beaucoup, hein, ça, on en est tout à fait conscient, mais on commence à avoir quand même un petit impact sur l'île, parce que nous allons à chaque fois dans des actions qui sont les plus populaires possibles. En ce moment, par exemple, nous faisons partie de la coordination pour les transports en commun gratuits avec 11 autres associations, dont la Mutuelle des Fraudeurs, les JC, ATTAC, Ensemble. Des syndicats, la CGT, Sud. Donc, nous faisons connaître par ce biais-là, parce que effectivement, il y a des choses qui se rejoignent dans tous ces partis et tous ces syndicats-là. Ensuite, nous allons aussi distribuer, par exemple, des tracts à la sortie de Pôle emploi, à la CAF, à la Sécurité sociale, et si bien que ça nous fait nous connaître. Et on a déjà fait une première réunion de Podemos, où on était à peu près une dizaine. Mais ce sont des gens qui étaient intéressés, mais qui ne se sont pas forcément toujours impliqués, et qui n'étaient pas toujours là. Et là, nous faisons une réunion de notre cercle citoyen le 25 février au café Macondo à 19h. Ce qui va nous permettre aussi de pouvoir présenter de visu notre association aux gens qui vont venir.
Ouais, ok. Et justement, donc de ce fait-là, quel est... Pardon, Cathy, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, absolument rien. Je voulais simplement dire, mais vas-y, pose ta question.
Ouais, je voulais vous demander, de ce fait-là, quels étaient vos liens par rapport à Podemos Espagne, vu que le nom n'est pas anodin, je suppose. J'ai bien compris que l'idée d'horizontalité dans l'organisation vous plaisait. Et est-ce que vous avez des liens avec l'organisation politique et le parti, même maintenant, qui ont constitué politique Podemos Espagne ?
Absolument aucun. Car nous avons décidé de rester indépendants et autonomes. Alors, je voudrais présenter Podemos comme une association anticapitaliste, autonome, autogestion, contre l'OTAN, car ça fait partie de nos priorités, étant donné que M. Hollande a décidé de remettre la France dans l'OTAN. Voilà.
C'était déjà amorcé sous Sarkozy, ouais, et là, le rapprochement est...
Ah oui, alors que le général de Gaulle avait quand même eu le courage de sortir la France de l'OTAN, et ben hop, ça y est, la France est dans l'OTAN à nouveau. Mm-hmm. Alors nous, comme nous sommes antimilitaristes, nous avons décidé d'ajouter dans notre sigle « contre l'OTAN ». Voilà. Alors, comme Dominique l'a dit, nous faisons beaucoup de travail sur le terrain. Alors d'abord, par rapport au transport en commun, gratuit, pour tous. Moi qui suis au chômage, par exemple, et en fin de droit, je dois être obligée de payer comme un simple salarié qui, malheureusement, n'est pas subventionné de moitié par son patron. Voilà.
Mmh. Alors, comme étant donné... Ouais, il y avait la gratuité, et encore pour les demandeurs d'emploi.
Pour les chômeurs indemnisés, il me semble que les récistes avaient, mais je ne suis pas sûre.
Non, RSA, c'était 50%.
Ouais, c'est terrible, c'est pénible. Alors nous avons décidé de faire une action par rapport au transport en commun gratuit pour tous, les retraités, les chômeurs, les récistes, les étudiants, les lycéens, Enfin, tout le monde en fin de compte.
Parce et même les riches, alors, pour tous.
Bah, les riches dans leur bagnole, leur voiture, sur leur voiture. Ouais. Hein. Et c'est rare de voir un riche prendre les transports en commun. Et les mamans de famille qui ont des enfants, qui ne sont pas forcément chômeuses. Moi, je vois bien, par exemple, une personne que je connais, qui a 3 enfants, qui les mène à l'école tous les matins, et ben, la pauvre est obligée de frauder. Elle est obligée de frauder parce qu'elle n'a pas les moyens de prendre le bus. Mmh. Elle n'a pas les moyens.
Oui, alors je reprends sur le nom de Podemos. Oui. Nous avons pris le nom de Podemos effectivement en référence à Podemos Espagne parce que nous avons trouvé que l'élan de sympathie qu'il y avait en Espagne, nous pouvions en faire profiter la France, en faire profiter les gens, les citoyens. Donc on s'est appelé Podemos. Bon, parce que on s'est dit, nous pouvons, ça le faisait pas en français, et puis que ça faisait trop référence à Yes We Can, on n'est pas américain. Par contre, nous avons quand même un grand cousinage avec l'Espagne, et on s'est dit, mais pourquoi pas, honnêtement, surfer sur cette vague de sympathie, et surtout, les gens viennent nous voir en disant, mais pourquoi Podemos ? On s'est dit que c'était un mot espagnol. Après tout, on mange bien de la paella. On se pose pas la question de traduire le mot paella en français, quoi. C'est comme ça. C'est un petit peu, bien sûr, avec de l'humour, hein, mais on se dit que politiquement, ça avait quand même un sens parce que ce que fait Podemos Espagne, c'est ce que nous voulons faire ici en France. Surtout sur la démocratie directe, la démocratie de base, la démocratie des citoyens. On se dit que les citoyens ont autant leur mot à dire que les partis, sinon plus, parce que les partis, justement, avalent tout l'espace politique sans s'occuper de ce que pensent souvent les gens qui votent pour eux. Dès l'instant où les gens votent pour les partis, ça y est, on s'en occupe plus. Nous, ce qu'on veut, c'est justement inverser la tendance en disant les citoyens peuvent autant que les partis dire nous aussi on veut le pouvoir, donc justement Podemos, nous pouvons, c'est aussi le pouvoir du peuple. Donc on s'est dit que au-delà des partis, on pouvait aussi faire un mouvement de citoyens. Donc ce sont des citoyens non encartés politiquement, mais on ne refuse pas les gens qui sont encartés dans des partis. Dès l'instant où ils laissent leur parti à la porte, exactement comme par exemple tout ce qui peut toucher à la religion, on dit il n'y aura pas de religion à l'intérieur du cercle Podemos, même si on accueille évidemment tout le monde, tous les gens qui croient en telle ou telle religion peuvent venir, il n'y a pas de souci.
Et alors, par exemple, est-ce que vous avez eu le cas de, vous dites, on accepte tous les encartés, et ceux qui récupèrent en ce moment la colère du peuple, le fait que le peuple doit reprendre le pouvoir, c'est plutôt le Front National, en tout cas dans son discours, attention, parce que dans ses méthodes, ça sera loin de ça.
Oui.
Mais justement, donc comment vous réagissez, vous ? Quel est votre positionnement face au Front National ?
Justement, il est indiqué dans nos statuts que nous refusons tout parti fasciste ou émanant du parti fasciste, comme également aussi la bonne droite, parce que nous sommes anticapitalistes, donc ça, rien à faire, nous n'en voulons pas. Et d'ailleurs, par rapport à ce parti fasciste, dernièrement, nous avons mené, Dominique et moi, enfin Podemos Lille, une manifestation anti-FN. À l'époque, le FN avait failli passer dans les régionales. Alors donc, nous avons mené la manifestation avec notre banderole. Ils ont demandé tous les gens de nous suivre. Et les gens nous ont suivis. Et les gens nous ont suivis à travers les rues. Rue de Béthune, la Grand Place, rue Nationale. Nous sommes arrivés jusqu'au siège du Front National. Nous sommes restés un certain bout de temps devant, exprimer notre colère anti-FN. Et après, dislocation de la manifestation. Nous n'avons pas le droit de manifester. Nous avons pris le droit. Et nous l'avons fait. Alors donc, anti-FN, anti-fasciste, anti-capitaliste, donc c'est pour ça, tous ces partis émanant de ces partis, nous n'en voulons pas.
Et aussi que la base, enfin Podemos Espagne n'est pas sortie de rien, elle est sortie aussi de 3 ans, même plus, parce qu'il y avait eu avant l'occupation des places, notamment Puerta del Sol à Madrid, donc c'est la plus connue et qui a été la plus médiatisée. Mais avant, il y avait vraiment un travail de terrain de long terme et des habitants qui se réunissaient dans leur quartier, qui faisaient des conseils de quartier. Ensuite est venu le mouvement des places et ensuite, en continuation de cette occupation des places et de ces assemblée générale ouverte, où chacun s'exprime, où il y a de l'organisation qui se met en place petit à petit, est née ensuite la volonté de concrétiser cette indignation en action et en pouvoir, entre guillemets, politique. Mmh. Voilà, donc 69 députés maintenant en Espagne, 5 eurodéputés, le parti Podemos. Donc vous, en fait, si je comprends bien, vous voulez repartir de la base de ce qu'a été Podemos, c'est-à-dire la prise de parole par les citoyens, par les habitants, par les gens, dans leur quartier, dans leur ville, dans des manifestations spontanées, voilà, c'est
oui.
ça.
Alors, justement, sauf qu'en Espagne, malgré tout, ils sont partis d'un mouvement indignados, les indignés, que nous, on n'a pas réussi à développer. Donc, effectivement, il y a, j'allais dire, chez nous, une petite carence de l'émergence du mouvement. Ça n'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour nous, parce qu'on repart d'une base qui a très peu existé. Donc on essaye effectivement de faire quand même autrement, parce qu'on est bien obligé, et on repart de cercles citoyens et non pas d'un mouvement de masse, parce que le mouvement de masse en France pour l'instant n'existe pas, et on est bien obligé d'y aller petit à petit, pas à pas. C'est très difficile parce que comparé à l'Espagne, l'Espagne n'a pas de front de gauche. Nous, on a un front de gauche qui aspire justement toutes les volontés de rassemblement. Et c'est pas nous, on dit que c'est pas comme ça qu'on va y arriver, parce que justement c'est fait par des partis, c'est chapeauté par des partis. Et nous, on ne veut pas que ce soit chapeauté par des partis, mais chapeauté par les citoyens eux-mêmes. Donc, effectivement, c'est un peu difficile pour nous, mais on ne désespère pas. On ne désespère pas parce que nous savons qu'il y a des tonnes de gens qui se méfient des partis, qui se méfient de leur stratégie. D'ailleurs, on voit bien la difficulté de trouver un candidat dans le front de gauche en ce moment, et que pour qu'ils y arrivent, ils sont obligés de s'autoproclamer candidat. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Alors nous, on reprend à la base et on s'en fout de leurs élections. C'est pas la nôtre d'élection. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les citoyens qui disent voilà l'élection qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut faire. Et on espère y arriver justement par la création un peu plus tard d'une fédération des cercles citoyens. Podemos ou non, de toute la France, avec une charte bien établie, et de là partira peut-être une nouvelle vague citoyenne, mais véritablement, c'est-à-dire avec des citoyens qui ne sont pas forcément dans des partis.
Et pas une vague bleu marine.
Et certainement pas une vague bleu marine.
Surtout pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de collégial de citoyens et citoyennes. Un homme, une femme, un homme, une femme, en nombre impair.
Ah, voilà. Donc ça fait un homme ou une femme en plus, là.
C'est un tout petit peu comme si je voulais changer, c'est comme si nous voulions changer le système. Plus que ce soit qu'une seule personne en haut de cette pyramide, mais plusieurs personnes qui soient là, qui se conseillent, qui discutent ensemble, qui se mettent d'accord avec les citoyens. Pas pour les citoyens, mais avec les citoyens. Que tout se fasse avec les citoyens, avec des cahiers de doléances les cahiers de doléances faits dans chaque cercle, chaque région, et que ce soit un groupe de citoyens en nombre impair qui puisse travailler, qui puisse se conseiller et surtout changer ce système. Système qui n'est plus.
Justement, il y a d'autres associations semblables à la vôtre en France, c'est ça ?
Oui.
Eh oui.
Oui. Ouais. Alors, bien sûr, comme on ne les connaît pas tous, on n'arrive pas toujours à se contacter, mais ça commence petit à petit, par exemple par Facebook, par les réseaux sociaux, ça se construit comme ça un petit peu, mais à la limite, ce n'est pas forcément la priorité des priorités. Nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est de travailler à la base. Alors maintenant, s'il y a d'autres cercles citoyens qui font un petit peu autrement, c'est parce que localement, ils pensent que ça doit se faire autrement. Mais ça, il n'y a pas de souci, quoi. Nous, on s'est intitulé anticapitaliste, mais ce n'est pas pour autant qu'on va rejeter tous les cercles citoyens qui ne s'appellent pas anticapitalistes. Ce n'est pas notre problème. Et si même un jour, on arrive à une centaine ou 200 cercles citoyens, s'il faut changer le nom de Podemos parce que ça n'aura plus de sens à ce moment-là, on changera de nom. Là n'est pas l'important. L'important, c'est d'essayer de se développer avec les moyens qu'on a. On trouve que Podemos, ça a une résonance chez les gens. On en profite et on fait un petit peu comme Podemos Espagne, sans copier-coller, parce que c'est pas possible. Nous avons quand même deux réalités politiques différentes entre l'Espagne et la France. Les Podemos Espagne a ses urgences politiques et stratégiques à eux. Nous avons les nôtres. Le concept de base est tout à fait le même.
Ok.
Une petite chose que je voudrais ajouter, et là Dominique sera d'accord avec moi, d'ailleurs il me reprendra certainement après, c'est par rapport à changer l'organisation du travail, le système du travail, plus que le travail soit comme actuellement. C'est-à-dire, là en ce moment, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de pauvres, et ces pauvres, et même la classe moyenne qui glisse vers la pauvreté. Donc on réfléchit, on discute, pourquoi travailler, toujours travailler ? Nous, on est pour, par exemple, les coopératives travailleuses, c'est-à-dire que les ouvriers, les travailleurs aient les mêmes pouvoirs que les patrons actuellement, que ce soit eux qui dirigent l'entreprise. Actuellement, qu'il y a certaines entreprises qui gagnent encore de l'argent et qui licencient quand même, les salariés ne sont pas contents. Ils réquisitionnent leur patron. Ils essaient de reprendre l'entreprise comme une coopérative. Nous, on est pour ce système-là. Que les ouvriers, que les travailleurs, que les salariés aient les mêmes pouvoirs que les patrons. Qu'ils puissent prendre l'entreprise, qu'ils puissent la diriger. Après tout, pourquoi pas ?
Oui. La semaine dernière, on évoquait le cas des usines LIP dans les années 70.
Oui. Et Goodyear actuellement, et puis d'autres entreprises encore. Goodyear. J'aimerais parler de Goodyear. Goodyear, c'est salariés qui ont peur de leur avenir, qui ont réquisitionné leur patron qui n'ont même pas porté plainte, et puis maintenant, actuellement, ils risquent d'être condamnés.
Ouais, c'est l'État qui les poursuit, c'est le parquet,
L'État collabo qui les poursuit. Et nous, évidemment, nous soutenons ces salariés. Nous sommes allés déjà dans une action avec eux. Nous retournerons à nouveau à Amiens. Nous sommes entièrement corps et âme pour ces salariés de Goodyear. Voilà.
Les neuf qui se sont pris de la prison ferme.
Oui, exactement. Et donc, pour continuer ces histoires de travail, nous voulons parler également, et là je vais donner la parole à Dominique, le salaire à vie. Je suppose que vous avez entendu...
Le revenu de base, j'ai vu que c'était...
Le salaire à vie et le revenu de base universel. Et là je vais donner la parole à Dominique, qui s'y connaît plus que moi, et changer complètement ce système du travail qui ne devrait plus être comme il est actuellement.
Oui, alors justement, nous sommes en train d'étudier De débattre. D'ailleurs, ça va être un de nos thèmes lors de la réunion de notre cercle le 25 janvier à 19h.
Février,
à 19h. Nous allons débattre de ce que ça peut être le salaire à vie ou le revenu universel de base. Donc, on se base sur un texte de Bernard Friot qui a développer un petit peu l'idée et nous allons soumettre ce texte-là dans notre cercle pour savoir ce qu'on peut en penser et comment on peut appliquer cette chose-là. C'est pas une idée nouvelle, mais c'est une idée qui se développe. Donc de savoir si il est possible en France, avec la richesse française, s'il est possible en France de pouvoir admettre que des gens puissent avoir un salaire régulier à vie alors qu'ils ne seraient pas, entre guillemets, obligés de travailler. C'est-à-dire que nous remettons en cause la notion même du travail. On pense que la valeur travail, c'est la valeur la plus importante de toute notre vie. Mais on ne vit pas que par le travail. Le travail, c'est seulement un moyen de subsistance, c'est pas un moyen de vie. Hein, la qualité de la vie ne passe pas forcément par le travail que l'on fait. Donc, on remet ça en cause et on se dit que par des choix politiques ferme et fort, on peut arriver à avoir pour toutes les personnes, tout le peuple, un salaire qui puisse monter, par exemple, à 1 500 € par mois, ce qui ferait dégager par ceux qui voudraient travailler et produire, parce qu'il y a aussi, malgré tout, le problème de la production. Si les gens se contentent de 1 500 € par mois, ils risquent de ne plus aller travailler. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais comment le complément de salaire peut justement se faire par par travailler en entreprise.
Oui, et puis quand là, il y a des documentaires visibles facilement sur Internet qui montrent qu'à chaque fois que le revenu de base a été expérimenté, il me semble 80 ou 90% des gens conserver un métier à côté, et de ce fait-là un métier qui pouvait être plus une passion qu'une obligation et qu'un devoir. Par contre, le revenu de base a des limites s'il est appliqué comme en Finlande, où c'est souvent rappelé, mais de ce fait-là, le revenu de base en Finlande, c'est quoi? Il y a certains libéraux qui sont pour le revenu de base, dans le sens où il est conditionné par le fait que tout le monde touche la même chose, mais qu'il n'y ait plus aucune aide et aucune solidarité nationale. Par exemple, l'aide au logement est supprimée, la sécurité sociale est supprimée, sous prétexte en disant tout le monde a la même chose, tout le monde a 1 000, 1 500 € par mois, et de ce fait-là, il n'y a plus aucune autre aide de l'État. Voilà.
Oui. Et ça veut dire que justement il y a une différence entre le salaire à vie et le revenu universel de base, certaines personnes de la droite française se posent même la question, mais qui veulent regrouper toutes les aides et les allocations en un seul truc en disant ça sera votre salaire de base, sauf que une allocation n'est pas un revenu, ça veut dire que le salaire à vie serait peut-être plus adapté pour des gens qui veulent continuer donc à travailler et peut-être à travailler moins d'heures. Par exemple, la CGT nous propose 32 heures. Mais c'est 32 heures par semaine qui sont quand même dans ce même système de 40 heures, 39 heures, 35 heures, maintenant 32 heures. Nous, on propose un petit peu autre chose que les 32 heures, c'est-à-dire que s'il y a un revenu, un salaire à vie, il ne serait pas obligé de travailler 32 heures, mais 20 heures, ce qui ferait dégager du temps de travail pour d'autres qui ont toujours eu du mal à chercher du travail. Donc voilà comment on peut passer par le partage du travail. C'est peut-être un biais, c'est peut-être peut-être une solution pour partager le travail. Et ça voudra dire aussi que beaucoup plus de personnes pourraient accéder au travail.
Ok, un autre point donc de ce fait-là qui relie aussi Podemos Lille à Podemos Espagne, la question du revenu de base. Transition, petite pause musicale avant de revenir avec vous et les autres camarades des points sur les i.bar de l'association David's sur campus. J'ai choisi René Binamé qui nous chante Juillet 1936, car en effet, nous sommes dans les 80 ans de la guerre d'Espagne et des belles initiatives qu'il y avait eu là-bas à cette époque. Ouais. Voilà.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. Et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont coupés des menuisiers et sans patron. On sourit dans les ateliers, sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle. Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main.
Chanson à l'origine de j'ai perdu Ugerio.
Bien, révolution socialiste. Voilà des termes qui sont bradés, vilipendés ou qui flottent à travers des débats et des cercles. Et là, pourtant, c'est peut-être la première fois depuis que je prends la parole à Radio Campus que je vais les utiliser avec conviction et force, en pensant à un homme qui est en train de les incarner et qui crée, pour le moment, une divine surprise, puisque cela vient des États-Unis, qui ne ressemble pas, comme pouvait le dire Andy Warhol, à un parking entouré de voitures. Ça, c'était une caricature. Et cela vient d'un homme âgé qui a 74 ans, Bernie Sanders, qui fait donc mentir toutes les thèses comme quoi, pour changer quelque chose, un coup, on nous dit il faut des femmes. Enfin, les femmes sont parfaitement capables d'être aussi, je dirais, peu à la hauteur que les hommes. Un coup, il s'agirait des minorités. Je ne vois pas pourquoi il suffirait d'être noir ou d'être métisse pour incarner quelque chose de plus. Un coup aussi, on nous vend qu'il faudrait que ce soit des jeunes ou changer de visage. C'était grand classique, c'est-à-dire quand le système ne sait plus quoi faire, il change simplement ses mannequins. Mais de toute façon, le système média, sondage, expert et vieux logiciel ne bouge pas d'un iota. J'ai toujours rêvé que, pour gagner du temps, à un moment donné, comme les footballeurs qui ont des t-shirts avec les marques des multinationales qui les soutiennent, si les politiques avaient le courage de se promener avec des t-shirts des multinationales qui les financent, on gagnerait beaucoup de temps. Voilà. Alors cet homme, Bernie Sanders, a 74 ans, il est sénateur du Vermont, il n'est même pas démocrate, car vous savez, aux États-Unis, il y a deux grands partis qui dominent la vie politique depuis presque la fondation des États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Cela ne correspond pas de toute façon à une classification gauche-droite en France, car Lincoln était républicain, etc., etc. Les choses sont un peu plus complexes que cela. Parfois, la différence entre un démocrate du Sud ou un républicain du Nord-Est est très, très délicate. Mais en tout cas, cet homme qui n'est pas donc démocrate mais apparenté démocrate, qui est retraité de l'université, est en train de faire bouger toutes les lignes. Il emploie le terme socialiste alors qu'en France, notre Premier ministre proposait que l'on change le nom du Parti socialiste pour je ne sais quel terme. Il emploie le terme révolution dans un pays qui a d'abord connu une révolution. Les États-Unis ont connu une révolution bien avant la nôtre, n'est-ce pas ? Et je vais donc expliquer pourquoi il emploie ce terme, qui peut paraître tout à fait saugrenu quand on est un peu, comme nous, toujours anesthésié par l'idée de penser que les États-Unis sont simplement une multipuissance, le gendarme du monde. La révolution, pour lui, c'est simple. C'est la santé gratuite pour tous. Certes, le président Obama avait commencé à faire bouger les choses de ce côté-là, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore des millions de citoyens américains qui ont absolument des difficultés considérables à pouvoir se soigner ou payer un système d'assurance qui sont laissés sur le côté. Et pour lui, la révolution, c'est qu'aucun citoyen des États-Unis ne doit être laissé sur le côté. Et puis autre révolution, c'est que c'est la gratuité des, comment dirais-je, de l'éducation, de l'université. Aux États-Unis, il faut se rendre compte que si on n'a pas la chance d'être un fils d'eux, eh bien, pour faire des études dans une université, c'est un endettement à vie de 100 000, 150 000 dollars, c'est-à-dire on rentre dans une université et ensuite on s'en prend pour 20 à 25 ans. Donc il ne faut surtout pas perdre son travail, il faut bien le garder. Il faut bien être sage pour pouvoir rembourser. C'est un sacré challenge. Là, il propose la gratuité à l'université. Et en cela, c'est une révolution. Ensuite, bien sûr, il est contre le système des armes à feu. Et là, il le proclame d'entrée de jeu. Il ne fait pas de négociation avec le lobby très puissant, car le nombre d'Américains tués chaque année continue de grimper. C'est un véritable séisme et un trauma. Mais malgré tous les incidents à répétition, pour le moment, rien ne bouge, car ce lobby déverse des millions et des dizaines de millions de dollars et irrigue la vie politique américaine. Et j'en viens alors au dernier point qui constitue pour lui aussi la révolution, c'est que forcément, face à lui, côté républicain, il a donc le représentant du big business, c'est-à-dire M. Trump, qui dit, puisque je suis milliardaire, donc j'ai réussi, donc je peux vous représenter, c'est très simple. Il y a bien sûr le Tea Party, c'est-à-dire les évangélistes, voire télé-évangélistes protestants qui sont ligne très dur, et puis aussi, bien sûr, un représentant côté républicain de la minorité hispanique, c'est-à-dire, c'est le classique, un coup on va essayer les Noirs, un coup on va essayer les Hispaniques, je représente une communauté, et bien sûr un membre de la dynastie Bush, Jeff Bush, à nouveau, c'est-à-dire Jeff Bush, pardon. Et face à lui, côté démocrate, il a Hillary Clinton, inamovible, insubmersible, qui après avoir été la matrice et la compagne de la présidence de son mari, après l'avoir considérablement aimé, aidé, quel lapsus est aimé, elle l'a bien supporté, a été élu sénateur de New York, a été comment dirais-je, en charge des questions internationales sous Obama, secrétaire d'État, et qui maintenant, avec l'appui de tout le parti, etc., etc., fait campagne. Mais là, il y a un petit problème, c'est que Monsieur Bernie Sanders est un homme qui est fidèle à ses convictions, il n'a rien lâché, ce qui est rarissime, je le souligne, qui est intègre, on ne peut rien sortir contre lui, et qui donc mobilise, enthousiasme les étudiants, les jeunes aux États-Unis, qui à 80, 85, 90% votent pour lui, mais non seulement ne font pas que voter pour lui, se déplacent pour lui, font du porte-à-porte, utilisent les techniques modernes, Facebook, Twitter, etc., etc. Et donc, M. Sanders, une fois n'est pas coutume, n'a absolument pas créé un comité pour collecter les flux de ceci ou de cela. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et dans les débats, eh bien, quand on est fidèle à ses convictions, qu'on est intègre, il est capable de renvoyer la balle. Alors, c'est quoi renvoyer la balle ? Ben, c'est être capable de poser comme question à Mme Clinton, comment pouvez-vous nous expliquer qu'en trois conférences payées par Goldman Sachs, la fameuse banque qui place ses pions, c'est-à-dire ses anciens collaborateurs à la direction de pays européens, comme Mario Draghi en Italie, etc., etc., eh bien, comment vous pouvez nous expliquer, puisque vous êtes candidate à la présidence des États-Unis, que Goldman Sachs vous a payé pour trois conférences 675 000 dollars. Voilà. Alors là, évidemment, quand la question est posée en direct, ça fait un peu désordre. Madame Clinton ne sait pas quoi répondre et Bernie Sanders explique simplement que qui paie commande, c'est-à-dire que quand on est payé par des multinationales, on fait une politique pour les multinationales. Il explique ça de manière très pédagogique. Encore fallait-il qu'il y ait un homme qui soit capable de le faire en face, car c'est pour ça que j'ai souhaité parler de cet homme et de cette ligne d'espérance et de résistance qu'il incarne. Une fois n'est pas coutume, ces mots donc « socialiste » et « révolution » viennent des États-Unis, sont en train de se propager, de se faufiler à travers tous les médias du monde entier et pas de manière comique troupière. Il ne s'agit pas de ricaner, d'être défaitiste, mais souhaitons-lui de pouvoir continuer. Quoi qu'il arrive, même s'il ne peut pas aller jusqu'au bout, nous verrons bien, au moins, il aura essayé. Jusqu'à présent, jamais dans la vie politique américaine, un candidat avec le dossard socialiste, employant le terme de révolution, n'avait pu tacler et faire jeu égal ou même battre un candidat aussi puissant, aussi financé que Mme Clinton. Voilà, et cela, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est assez rare, les bonnes nouvelles. Et puis donc, bien souligner aussi que, contrairement aussi à toutes les apparences de ce que l'on nous vend comme la vie politique, c'est quand même un homme qui est courageux physiquement et par rapport à son âge. Il a 74 ans et c'est un homme qui est en train de booster, de donner envie à la jeunesse américaine, de changer les choses et de faire que la démocratie américaine ne soit pas simplement capté par les 1% les plus riches qui financent la vie politique et qui donc, qui paient commande, ont des candidats qui tiennent le discours qu'on a envie de qu'ils tiennent. Voilà.
Merci beaucoup Christophe pour cette chronique qui balaye bien, je trouve, la question en ce moment des enjeux de ces primaires. Et je voulais préciser simplement qu'aux États-Unis, il faut se souvenir que communiste égale socialiste est plutôt une insulte aux États-Unis depuis le McCarthyisme et sa chasse aux sorcières. Et qu'il faut savoir que tout parti appartenant à la 4e internationale est interdit encore aujourd'hui aux États-Unis. Donc se dire socialiste aux États-Unis, ça a un véritable poids. Et que la candidature aux primaires d'un homme comme Bernie Sanders et les succès qu'il rencontre, c'est véritablement révélateur aussi de changements profonds, je pense, dans la société américaine qui, du coup, se réapproprie aussi en partie, pour une partie de cette société, cette question du socialisme qui, pendant très longtemps, était véritablement banni des discours publics aux States. Voilà. Et autre élément par rapport à cette dépendance que tu soulignais de Hillary Clinton vis-à-vis des marchés financiers de Wall Street, Goldman Sachs, etc. Et faire le lien avec cette question de la gratuité des études supérieures, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup d'étudiants qui s'endettent, en fait, eh bien, se voient financer leurs études par des banques ou des multinationales qui financent donc leurs études en échange de leur engagement à ces étudiants de travailler chez eux pendant X années. Et donc, ça permet également, la gratuité des études permettrait également véritablement de rendre plus d'autonomie à ce niveau-là.
Et ce qui est intéressant, c'est que Bernie Sanders prend souvent de ce fait-là l'exemple de la France par rapport à son système de santé et sa gratuité dans les facs, et qu'en France, on est en train de régresser par rapport à l'accès à la santé des gens, et que le système de subvention par des entreprises privées d'étudiants pour qu'ensuite ils viennent bosser chez eux, et ben ça, c'est en train de s'installer doucement mais sûrement en France. Donc c'est marrant de voir l'inversement des balances, quoique pour l'instant, il n'y a rien de gagné non plus pour Bernie.
Mais je terminerai quand même.
Le terme révolution, bon, il est peut-être un peu gros par rapport à l'organisation du parti et voilà, oui, l'idée qu'on peut s'en faire aussi.
Certes, ouais. Mais enfin, bon, que les choses soient claires. Nous n'avons pas l'habitude que l'exemple de résistance.
C'est une révolution pour individuellement des jeunes, bien sûr. Là-bas.
Nous n'avons pas l'habitude que l'exemple de la résistance vienne des États-Unis.
Non.
Ensuite, il ne faut pas oublier, et là Simon je ferai juste une correction qui
c'est
me semble
la
utile.
La résistance, là, c'est du progressisme en l'occurrence, et c'est en France qu'il faudrait plus une résistance par rapport à la perte des acquis sociaux.
Oui, mais je pense que justement...
qui sont jamais acquis.
Je pense que quand il y a Podemos en Espagne, cela nous concerne. Quand il y a Syriza en Grèce, cela nous concerne. Mm-hmm. Et que par ces temps où d'un côté on a les ricanants, les cyniques, les défaitistes et de toute façon en face la réaction qui avance, il faut pointer les bonnes nouvelles. Et d'autre part, alors là justement, en ce qui concerne les États-Unis, ce n'est pas parce que nous n'avions pas connaissance et depuis des années de grèves, de mouvements, de résistance, etc., etc., qu'ils n'ont pas eu lieu. Renvoie à cette intuition fondatrice d'Edgar Morin qui expliquait « N'oublions pas que nous sommes dans un monde avec une montée des périls, mais que simplement les êtres humains qui partout sur la planète, comme aux États-Unis parfois, les citoyens qui se battent contre la privatisation de l'eau ou contre des multinationales, les gaz de schiste, etc., ou au Canada, tout cela, on n'en parle jamais. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, même en France, quelque part, dans certains lieux de résistance. Et donc, comme on n'en parle pas, ça n'existe pas. Puisque le système des médias, radio, télé, journaux et instituts de sondage, je tiens à le rappeler, est complètement verrouillé par ceux qui ont le capital. Donc là, forcément, les démocrates, les primaires américaines, M. Bernie Sanders est en train d'exploser le couvercle. Et c'est très bien. Dreamer.
Imagine, John Lennon bien sûr, et la version de Playing for Change également dans les points sur les points barres sur le 106.6 FM. Justement, les points sur les points barres, étant donné qu'il y en a qui ont essayé d'allumer des incendies et ça a bien pris dans certaines têtes par rapport aux agressions de Cologne, Nouvel An à Cologne, et bien voilà, heureusement que de temps en temps les médias essaient de corriger un peu ce qu'ils ont jeté, et que quand certains soufflent sur les braises, et ben il faut savoir pisser dessus. Et là donc c'est le rtbf.be qui nous précise que par rapport à justement ces 1000 agressions sexuelles, voire même viols, hein, par des migrants, comme c'était sorti à l'époque, eh bien 55 des 58 agresseurs n'étaient pas des réfugiés. Réfugiés, migrants. Voilà, donc il y en a seulement 3, et encore, hein, ça reste tout ça des suspects uniquement. Et qu'ensuite, sur les 1000 plaintes déposées, 600 concernent des vols. Voilà, donc c'était important de préciser dans les points sur les i ces données-là, et l'affaire est encore en cours. Au final, voilà, beaucoup de fumée qui a bien étouffé pour rien.
Je voudrais juste rappeler qu'en ce qui concerne cette affaire de ces viols collectifs qui a été évoqué avec un grand tapage, etc., qu'il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, il y a eu un trauma à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui explique cette caisse de résonance. C'est lorsque les Russes ont avancé à travers, je dirais, l'Allemagne nazie à l'époque, il y a eu des milliers et des milliers de viols de femmes allemandes, et que cela a profondément marqué la société allemande encore jusqu'à
et
aujourd'hui.
Et par les Américains aussi, voilà. Et que ceux qui ont été retenus principalement coupables, c'est peut-être pas le soldat blanc américain, mais le noir américain. Attention.
Mais la proportion,
société, alors, ça a dû marquer aussi les Allemands.
C'est un peu délicat de parler des
non,
chiffres.
Mais bref, donc c'est pour ça qu'on ne va pas embrayer.
Non, non, mais la proportion était effarante côté soviétique, puisqu'ils avaient même des ordres militaires de le faire.
Bah oui. On a retrouvé des documents. C'est utilisé comme arme de guerre, voilà. Comme encore aujourd'hui dans beaucoup de guerres dans le monde.
Attention, assumé dans les archives militaires. Aujourd'hui, on a les traces.
Cathy, tu voulais dire quelque chose?
Je veux dire quelque chose par rapport à ces Russes là qui ont violé ces femmes allemandes. C'est que certaines femmes allemandes étaient inscrites auprès du Russe qui l'a violée, et que ce Russe, soi-disant, l'a protégée contre les autres violeurs, mais lui, il y allait. Il se servait.
Hein. Oui, c'était effarant.
Sans transition, il y a Marine, vous ne l'avez pas entendu là depuis 2 semaines dans cette émission, c'est normal, elle est en Roumanie, la copine Marine, mais elle nous a envoyé une chronique qu'elle m'a chargée de vous lire. Ça concerne justement un fait très précis, vu que c'est aujourd'hui que la préfète va annoncer officiellement, parce que aux gens qui sont dans les bidonvilles de Calais, que bah ils doivent dégager, sachant que les destructions ont déjà commencé, et ce sans préavis aucun. Donc je vous lis donc le texte que Marine nous a écrit à ce sujet. Les choses évoluent à grands pas à Calais ces dernières semaines. Elles reculent d'un bond pour détruire ce que les bénévoles et les habitants du bidonville ont mis des mois à construire. Des allées, des habitations de fortune qui s'étaient améliorées de semaine en semaine, et la destruction d'une mosquée et d'une église. Des quartiers entiers ont déjà été rasés, ce qui pousse leurs habitants à se resserrer dans d'autres zones qui sont pour le moment épargnées par le plan de réduction entrepris. Les personnes qui font vivre ce bidonville, bénévoles et réfugiés de la partie sud du camp, ont reçu un nouvel ultimatum de la part de la préfète du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont une semaine pour dégager avant que l'État et la ville de Calais ne viennent les expulser. La zone concernée s'étend sur 7 hectares et représente la moitié du camp, soit 1000 personnes. Le but est ensuite de raser les habitations et surtout l'une des principales écoles, l'école laïque du Chemin des Dunes. Alors que certains tentaient de réhumaniser une situation qui a dégénéré parce que l'État n'a rien pu mettre en œuvre pour gérer la situation, il vient aujourd'hui en force détruire les efforts de chacun. L'objectif annoncé est de réduire à 2000 personnes la présence sur le camp. Bien sûr que ce camp n'est en aucun cas une solution, et que les conditions de vie ne sont ni souhaitables ni acceptables, mais faute de mieux, Une partie de la société civile a su s'organiser, comme elle le fait en Grèce, en Turquie, en Hongrie, pour améliorer les conditions de survie des personnes qui ont fui un pays en guerre et se retrouvent dans la boue. Les solutions proposées par l'État sont des containers au sein d'un enclos à ouverture biométrique pour 1500 personnes. Et le centre Jules Ferry, fermé lui aussi. Une autre partie de la solution est de diriger les personnes vers des centres d'accueil et d'orientation qui seraient répartis dans 70 villes de France, mais l'on trouve très peu d'informations sur ces centres. Une pétition a été lancée sur Avaaz contre la fermeture de l'école et la destruction d'une partie du camp. Fin de lecture du billet que nous a envoyé Marine.
Justin, chronique
oui.
À ton tour.
Alors, encore une autre mauvaise nouvelle. Moi, j'aimerais pour ma part vous parler de la pire pollution environnementale de l'histoire du Brésil, qui a commencé en novembre et qui continue encore aujourd'hui. Je remercie le site reporter.net et pour son article « Après la catastrophe écologique au Brésil, l'heure est venue de rendre des comptes » qui date du 21 janvier 2016, parce qu'on parle très peu de cette catastrophe. Alors, début novembre, un barrage contenant des boues toxiques a cédé. Ces boues sont le produit de l'exploitation minière de la région. Ils contiennent, pour les plus connus, des choses toxiques comme le mercure, l'arsenic, et elles sont également très épaisses. Elles ont envahi le fleuve du Rio Doce sur 650 km et elles s'écoulent aujourd'hui encore dans l'océan. 1,5 million d'habitants vivent sur les rives du fleuve. Leurs revenus sont essentiellement issus du travail minier, du tourisme et de la pêche. Les estimations sur le long terme pour les écosystèmes de la vallée, de l'embouchure et de l'océan Atlantique divergent selon les experts, mais dès à présent, on peut constater que partout l'on trouve des cadavres de poissons qui flottent. Côté humain, ce sont 17 personnes qui sont mortes sur le coup et un village entier qui se trouvait sur le passage de la boue toxique a été rasé. Pour les victimes et les associations, la rupture du barrage n'est pas un accident. Le bassin de rétention qui stockait les boues toxiques était en effet arrivé à la limite de ses capacités. Les victimes et les associations accusent donc l'entreprise propriétaire du barrage, par exemple, qui n'avait pas respecté la réglementation, qui n'avait donc pas installé de signal d'alarme ni de digue de protection, contrairement à ce que veut la réglementation. Mais sont aussi accusés les autorités, car les réglementations et les contrôles sont insuffisants. Par exemple, il n'y a que 4 inspecteurs pour 700 sites dans l'état du Minas Gerais où a eu lieu la catastrophe. Et ces inspecteurs n'ont pas toujours les compétences requises pour estimer la fiabilité d'une installation. Ironie de l'histoire, le barrage qui a cédé avait été inspecté l'année précédente. Alors comment une situation aussi meurtrière peut-elle exister ? Eh bien, les minerais sont le premier poste d'exportation du Brésil, devant la viande, le soja ou le pétrole. D'ailleurs, Minas Gerais, qui est le nom de l'État fédéré où s'est produit la catastrophe, signifie « mine générale », tant ses sols sont riches en minerais. Dans la vallée, aujourd'hui dévastée, les entreprises minières sont le premier employeur. Le groupe Vale, ou Vallée, je ne sais pas comment on dit, qui possède l'entreprise à l'origine de la catastrophe, est le numéro 3 mondial des mines. Outre par les emplois, il tient une partie de la classe politique, culturelle et associative, car il les finance massivement. La politique, parlons-en. La réglementation sur les mines et les forêts s'assouplit d'année en année. Et depuis la catastrophe, on peut dire que les organisations citoyennes sont mobilisées et qu'ils dénoncent qu'une cinquantaine d'autres barrages présentent des dangers. Mais de leur côté, les parlementaires continuent leur délire. Quelques jours après la catastrophe, ils ont en effet voté une loi assouplissant la réglementation écologique pour les ouvrages dits « stratégiques ». Alors certes, l'État a infligé une amende de 5,2 milliards de dollars qui sera payée par les responsables pour protéger ce qui reste des écosystèmes et pour protéger les populations riveraines. Une bataille juridique s'amorce donc pour tenter de prouver la culpabilité de Vale. Le personnel politique souhaite donc faire payer les entreprises, mais il ne semble pas estimer avoir une part de responsabilité, comme si la réglementation et l'administration n'étaient pas eux aussi à l'origine de la catastrophe.
Merci. Merci Justin, et vu que dans cette émission il ne reste que une minute, eh bien j'invite nos invités Dominique et Cathy de Podemos Lille à conclure. Voilà.
Alors je voudrais conclure pour vous rappeler que nous faisons une réunion la semaine prochaine, réunion publique du Cercle citoyen Podemos, le 25 février 2016 au Macundo, 37 rue des Postes à Lille. Et la réunion se tiendra à 19h. Il y aura la présentation de notre cercle Podemos de Lille, le débat sur ces transports en commun gratuits pour tous, le débat sur des coopératives, notre manière de travailler, l'idée du salaire à vie ou revenu universel de base. Voilà. Alors, notre réunion se tiendra au Macundo à 19h.
Merci d'être venu.
Et donc, je vous invite aussi jeudi donc à 18h à la Ferblanterie Porte d'Arras à l'Assemblée Générale du collectif contre l'état d'urgence et la guerre. À la Ferblanterie, jeudi à 18h.